Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, vous y êtes. C'est le nouveau rendez-vous. Vous l'avez attendu toute la journée. On est disponible là dès 18h en podcast avant même de nous retrouver à l'antenne de 22h à minuit. En première partie, l'actualité et la musique live. En deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, c'est un mantra, le véganisme. Va-t-il sauver la planète? Est-il à la solde de lobbies inavouables? Ne plus manger de viande, c'est écologique ou pas du tout? Christophe Bourseiller, je me souviens d'une précédente émission avec un titre formidable. Les véganes, ils ont mangé du lion. Vous vous souvenez de ça?
Oui, c'était génial. Après, il y avait aussi, faut-il tirer les pis sur lit par la racine? Enfin bon, bien de questions. Le véganisme est-il un intégrisme? Betterave, carotte, libérez la parole? Point d'interrogation. Ça y est, la viande me dégoûte déjà? Point d'interrogation. Voilà, ce sont quelques pistes de débat que je vous livre pour le colloque, Laurent.
Je vous présente à côté de vous, elle va vous prendre le micro parce qu'aujourd'hui c'est vraiment des chaises musicales. Dans l'axe du micro, la reine du vin bio et nature, Marion Guilbeault.
Oui Laurent, vous voulez que je vous parle du live qu'il va y avoir en fin d'émission? Son image avec Vincent Delerme, il sort un premier film, un nouvel album, Panorama, qui va sortir le 18 octobre. Il est en live et il est surtout en avant-première dans le NRV à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter, plus de Léonard de Vinci toute cette semaine. Au programme ce soir, l'affaire du buste de la Flora. Et si c'était un faux?
C'est une belle question, j'avoue que je ne me suis jamais posé.
On devrait en faire un débat. Allez, NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller, avant de commettre l'éditorial, je vous présente nos invités. Frédéric Danhé, vous êtes journaliste, essayiste et vous signez La cause végane, un nouvel intégrisme aux éditions Buchet-Chastel. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous, il y a un point d'interrogation quand même.
Vous avez l'intégrisme
je l'ai bien mentionné, non?
C'était moyen. L'intégrisme.
Excusez-moi de n'avoir pas fait la comédie française. Sébastien Arsac, vous êtes fondateur de l'association L214, auteur de « Quand la faim justifie ». Quand la fin ne justifie plus les moyens, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
À vos côtés, Étienne Gagneron, vous êtes éleveur de bovins et vice-président de la FNSEA. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, tout à côté de moi, Amélie Mouget, elle est rédactrice en chef de la revue Dessinée, qui participe au livre A4, Viande. Sa dernière heure a-t-elle sonné?
Bonsoir. Bonsoir.
Interrogation.
Ah bah là, je l'ai bien fait.
Oui, bien fait.
C'est à vous, Christophe Bourseiller.
C'est à moi.
Oui, allez-y.
Bah, écoutez, Laurent.
Vous savez, il y a eu un blanc.
C'est une force. Je ne sais pas comment vous vous sentez, Laurent, mais vous qui vous nourrissez à midi d'un yaourt maigre et le soir de 42 spaghettis que vous n'avez pas encore ingurgité.
75 grammes de pâtes.
75 grammes, vous voyez le malade. Moi, je commence à en avoir ras-le-boléro. Qu'on me dise ce qu'il faut penser, ce qu'il faut boire et ce qu'il faut manger. Si vous voulez manger végétarien, vegan, kasher, halal, macrobiotique ou sans gluten, c'est votre affaire, Laurent. Mais ne venez pas me culpabiliser. Comment ça j'assassine des petites bêtes innocentes? Vous avez pensé, vous, au cri de la salade quand on la démembre, à l'horreur de l'artichaut qu'on écartèle, à la banane qu'on écorche vive? Vous pensez que j'exagère? Mais l'Assemblée nationale a proclamé en avril 2019 une déclaration pour les droits de l'arbre. Alors c'est vrai que les défenseurs du manger vertueux se drapent bien souvent dans les plis de la morale pour imposer de force leur vision du monde. Se sont-ils pour autant constitués en religion? Frédéric Danhé, vous êtes donc l'auteur de ce livre, La cause végale, un nouvel intégrisme. Peut-on résoudre les problèmes de malnutrition ou sauver le monde en renonçant à la viande?
Non.
Selon vous?
Non, je pense pas. Non, c'est un équilibre à trouver. On n'y arrivera pas. On résoudra pas les problèmes de la planète. Enfin, c'est comme toute solution unique. Les solutions uniques sont pas très subtiles. Les solutions uniques sont un peu éloignées de la complexité des choses. Donc, on ne nourrira pas la planète en renonçant à la viande, en étant sans gluten, ou en étant dans l'élevage industriel, ou dans la viande in vitro, ou que sais-je encore. Le problème, c'est les dogmes qui tuent l'agriculture à petit feu. Et passer d'un dogme à l'autre, je suis pas sûr que ça sauve l'humanité.
Vous faites quand même remarquer dans votre livre une chose importante, c'est que vous dites vous-même, vous dites la viande n'est plus la viande. C'est un côté Guy Debord quand vous dites ça. Ce ne sont plus des fruits ou des vaches qui s'échangent, mais des amas de molécules au seul profit d'un marché mondialisé. Le fait que la viande de grande consommation soit aujourd'hui effectivement, on pourrait dire empoisonnée d'une certaine façon par diverses substances, contribue à faire monter le véganisme, Sébastien Arsac.
Oui, sûrement, mais enfin, je pense que si il y a aujourd'hui un cataclysme au niveau planétaire, je pense que la question de la production et de l'agriculture, de l'élevage tel qu'il s'est développé depuis la Révolution verte, où on a eu la mécanisation, la génétique, la chimie, l'augmentation des rendements, est vraiment responsable de beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit au niveau réchauffement climatique, au niveau du partage des ressources, etc. Donc, aller vers une végétalisation de l'alimentation est quand même une piste intéressante pour remédier à tous ces problèmes-là qu'on pointe du doigt aujourd'hui. Il y a aussi la question sociale, évidemment, puisque dans l'agroalimentaire aujourd'hui, autant les éleveurs d'ailleurs que les gens qui bossent dans les abattoirs, c'est un métier qui est très difficile, très complexe. On a aujourd'hui chez les éleveurs trois fois plus un éleveur qui suscite tous les deux jours trois fois plus de suicides que dans les autres métiers.
C'est vrai, Étienne Grandgrand ?
Étienne Grandgrand. Moi, ce que je vous dis, c'est que effectivement, il est inacceptable qu'aujourd'hui, pratiquement tous les jours, un agriculteur et beaucoup d'éleveurs se donnent la mort. Ils se donnent la mort pour plein de raisons. Il faut aller sur ces sujets-là avec beaucoup d'humilité. En tout état de cause, cette pression psychologique permanente sur la remise en cause du métier d'éleveur participe, pour un certain nombre d'entre eux, à faire le geste ultime. Je le dis très clairement et juste pour confirmer mon propos, contrairement à ce qui se dit, parce que nous on a étudié très précisément les chiffres des éleveurs qui se suicident, la catégorie d'éleveurs qui se suicident le plus, ce sont des éleveurs issus d'élevage allaitant et d'élevage laitier, absolument pas d'élevage intensif comme parle régulièrement Sébastien Arsac.
Mais il y a une dégradation de la viande. Amélie Mouget, dans votre viande, sa dernière heure a-t-elle sonné ? C'est le titre de votre A4. La viande se dégrade aujourd'hui ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que continuer à manger de la viande telle qu'on le fait aujourd'hui, dans les proportions qui sont celles dans lesquelles on en mange aujourd'hui, c'est-à-dire 10 fois par semaine, en gros, on mange 2 fois plus de viande qu'il y a 2 siècles. On mange 84 grammes par personne, contre 84 kilos par an et par personne, contre 40 il y a 2 siècles. Ça génère une industrie, ça génère on voit très bien ces images révélées par L214 de poulets en batterie, d'abattoirs, où les animaux...
C'est aussi dans votre A4.
Oui, où les animaux sont en souffrance, où les hommes sont en souffrance. J'ai l'impression que la viande est considérée de plus en plus comme problématique dans la manière dont elle est produite aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit les éleveurs individuellement ou l'élevage tel qu'il peut être pratiqué de manière extensive avec des vaches sur l'herbe qui soit dans le viseur, même s'il peut y avoir plein d'interprétations et puis des manières d'exprimer ça hyper offensives. On a vu en mai dernier un boucher attaqué
on va en parler la deuxième partie.
Et par contre sur la qualité de la viande, fatalement le fait de produire dans de telles quantités, de faire grossir des animaux beaucoup plus vite que leur maturité naturelle, et le fait de concentrer, ça augmente les risques de maladie, du coup ça augmente les antibiotiques. Donc oui, qualitativement, la viande industrielle en tout cas, c'est sûr qu'elle n'a plus la même qualité qu'une viande élevée sur l'herbe.
Moi je pense que ces considérations sont des considérations datées, puisque par exemple, simplement le développement de l'agriculture biologique en France, dont je rappelle quand même, plus de 2/3 des surfaces sont liées à de l'élevage en agriculture biologique, parce que c'est quand même plus simple d'avoir des systèmes polyculture-élevage et des écosystèmes qui fonctionne avec des animaux et des végétaux, montre bien que globalement cette qualité-là elle augmente. Après, la grosse problématique, c'est la restauration hors de...
Il n'y a pas que la qualité de la viande,
non, mais
justement,
c'est,
qui
c'est essentiellement la restauration hors domicile, où en fait on voit très bien qu'il y a une consommation plus festive le week-end et tout, les gens font attention, vont plus sur des circuits courts, mais le reste de la semaine dans les grandes métropoles ils vont sur de la RHD. Nous on a fait les comptages,
la
restauration hors domicile, donc dans les restaurations d'entreprise, restauration scolaire, et on a des chiffres effarants, c'est-à-dire qu'on conteste aujourd'hui les modèles de production français dits intensifs, sauf que dans la RHD, il y a plus de 60% de la volaille qui est importée, qui vient même pas de France. Et on sait très bien que les conditions françaises sont peut-être pas super géniales pour certains. En tout cas, elles sont sûrement mieux disantes que ce qui est importé, qui vient d'Ukraine ou même de plus loin, ou du Brésil.
Dans votre livre, Frédéric Danhé, vous dites quelque chose qui m'a beaucoup troublé, que je ne sais pas si c'est vrai, j'aimerais qu'on en parle. Vous expliquez que le véganisme, selon vous, est manipulé par des gens qui font la promotion de la future viande in vitro. Je vous cite, vegan et antispéciste ouvre la voie à des gens qui considèrent les substituts de viande comme un grand marché d'avenir. Vous êtes d'accord, Sébastien Darsac ?
C'est-à-dire que si on rend le monde avec une alimentation 100% végétale, demain, vegan et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il continuera pas à être un monde capitaliste. et donc ça sera les mêmes règles. Je veux dire, c'est pas la baguette magique de passer à une alimentation 100% végétale. Il y a tous les travers qu'on peut retrouver dans l'alimentation, dans les cultures végétales aussi. On peut les retrouver là aussi. Donc c'est une deuxième question, j'ai envie de dire. Il y a la question des conséquences de la surconsommation de produits animaux aujourd'hui sur la planète. Et il y a la question d'autres choses dans les relations sociales, dans notre moyen de production, dans l'industrialisation générale du monde, dans les échanges, qui est une question qui est indépendante de celle-ci. Évidemment, il y a des entreprises qui voient une manne, un marché énorme à prendre sur la question du végétal, parce qu'on voit que la production de protéines animales va avoir des limites, est un gaspillage en termes de ressources sur la planète. Hein, si on regarde le problème au niveau global, il y a eu des alertes encore sur la question de l'antibiorésistance avec l'usage des antibiotiques, ou dans les voies en pays de développement, c'est absolument la catastrophe, l'usage des antibiotiques. Et c'est vraiment ce modèle d'élevage donc qui a été développé notamment dans les pays occidentaux aujourd'hui, que les pays en voie de développement sont en train de reprendre et qui va droit dans le mur. Donc il y a un modèle à développer le véganisme ne va pas sauver la planète, mais c'est un élément intéressant.
Amélie Mouget et ensuite Frédéric Danhé.
Mais clairement oui, c'est devenu un marché. On a dans nos recherches, on a vu qu'il y avait pour 380 millions d'euros de produits garantis sans exploitation animale qui ont été vendus, achetés par des Français en 2018. Et puis au Royaume-Uni, McDo a lancé son Happy Meal végétarien, KFC son burger au poulet végétal. Donc c'est vrai que c'est pas, on n'associe pas forcément ces acteurs à des gens qui promeuvent de bonnes manières de s'alimenter. Et il y a un effet d'opportunité et d'opportunisme même sur cette question.
Est-ce qu'ils sont manipulés pour l'instant? Non, mais ils sont en voie de l'être, parce que justement, effectivement, c'est un nouveau marché. Parce que le marché de l'élevage industriel aux États-Unis, les Tyson Foods et compagnie, rapportent de moins en moins, parce que les financiers qui sont derrière ont des indicateurs en main qui leur démontrent que les impacts écologiques sont importants et qu'un jour ou l'autre, ils seront taxés par les États. Et donc, vous avez des milliardaires qui impoussent les investisseurs à ne plus investir sur les géants de la viande industrielle, poussent les investisseurs à investir sur les start-up qui, un peu partout dans le monde, commence à fabriquer de la viande in vitro.
Et ainsi, ça fait un peu peur, l'idée de la viande in vitro. Hein. Personnellement, je trouve ça assez effrayant. Vous savez, il y avait un roman de science-fiction de Serge Brussolo, dans lequel, sur une planète, il y avait des plantes qui faisaient pousser des steaks. Et donc, c'était des espèces de plantes gorgées de sang.
Rassurez-vous, on n'est pas là, Christophe.
Quand le steak était mûr, on le cueillait. Mais je trouve
on est dans la science-fiction américaine des années 50, effectivement. Et puis donc, enfin, pour terminer, ces mêmes milliardaires poussent les financiers à investir sur des associations dans le but de dégoûter les consommateurs de manger de la viande. C'est le syndrome du beurre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les Parisiens soient dégoûtés du taxi, et puis le jour où ils sont vraiment dégoûtés, comme par hasard, Uber est là pour accueillir, et le marché naît d'un coup. Après, effectivement, comme le dit Sébastien, le véganisme n'a jamais promis de changer la planète, sauf que c'est perçu comme ça, et le paradigme qui est, le changement de paradigme qui est annoncé.
Ce serait comme si ce serait un discours écolo, alors qu'en fond, pas tellement.
Non, parce que ça changera pas le système. Au contraire, ça va faire en sorte que l'argent va juste passer d'un monde à l'autre, du monde de l'élevage industriel au monde des start-up, et in fine, l'ultra-capitalisme financiarisé, mondialisé qui est derrière, va pas changer grand-chose.
Oui, alors moi, comme Christophe Bourseiller, je suis complètement effrayé par ce sujet et le fait que les GAFA investissent très très fortement en la matière. Quelle naturalité derrière. Voilà, ça fait partie aussi des injonctions contradictoires auxquelles sont presque condamnés les agriculteurs au quotidien. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit il faut plus de naturalité, plus de bio, puis d'un autre côté, on leur dit mais on va développer de la viande in vitro.
Ils s'y retrouvent absolument pas.
Tout à fait. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un avec qui je suis pas souvent d'accord, qui est une chercheuse de l'INRA qui s'appelle Jocelyne Porcher, qui a écrit là-dessus, et on partage cette théorie qu'en fait, il y a une espèce d'alliance. Alors, je ne sais pas si elle est implicite ou si elle est un peu acceptée, mais qui va quand même dans ce sens. Pour aller plus sur l'aspect de la végétalisation de l'alimentation, je crois qu'il faut aussi pas faire des erreurs. Techniquement, il y a aujourd'hui, par exemple, en France, pratiquement 12 millions d'hectares de prairies. Ces 12 millions d'hectares, c'est de l'herbe qui pousse dessus. Pourquoi il y a de l'herbe dessus? Vous voyez, on a parlé des conditions de vie des éleveurs. Ils arrêtent progressivement les métiers d'élevage. Mais ces surfaces-là, on fera pas de végétaux, on fera pas du maraîchage sur des côtes du Jura très très caillouteuses ou dans mes plaines argilo-calcaires de Champagne-Berrichonne, parce que c'est des terrains très secs. Et dès qu'il y a beaucoup d'argile, on fait de l'herbe. Et l'herbe, elle est pas en concurrence directe avec les humains. Donc je crois que la place base de l'élevage et pas à remettre en cause. On peut faire évoluer certains systèmes qui ont trouvé leurs limites, mais en tout état de cause, et notamment par rapport à la planète et au réchauffement climatique, les prairies, comme la forêt, comme les océans, ont un rôle essentiel dans la captation des gaz à effet de serre. C'est évident. Et dire le contraire, c'est quand même mentir au grand public.
Les esprits s'échauffent, mais pourquoi tu cries ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Johan, Papa Constantino, qui le chante. C'est la signature de Johan Papa Constantino, programmation autotune de Jean-Baptiste Audibert.
Dénigrement, insultes, attaques d'exploitation par des activistes. Les agriculteurs sont devenus des cibles.
On nous fait passer vraiment pour des bros.
La vitrine brisée, des inscriptions taguées sur la façade de cette boucherie.
Le nouveau rendez-vous.
Des boucheries mais aussi des enseignes de fast-food, des fromageries et une poissonnerie saccagée.
Laurent Goumard.
Des actes de vandalisme condamnés par certains véganes plus modérés.
Lancer des pierres dans les vitrines des boucheries, ça n'éduque absolument pas les populations à faire des choix de consommation éclairés.
Sur France Inter.
Violence contre les abattoirs, contre les fermes, contre les boucheries, mais violence aussi des deux côtés. Par exemple, des anti-véganes, je pense à ces Anglais qui ont bouffé des écureuils crus à Londres en juillet devant des véganes atterrés.
Alors moi, je suis anglais pour manger un écureuil cru.
C'est ça, c'est parce qu'ils sont anglais.
Je prends un magasin végan.
Même cuit, c'est pas très bon.
Oui, oui, je sais pas. Je
Ils en mangeaient pendant la guerre. J'ai des anciens chez nous qui disaient que c'était pas terrible.
Mais cru.
Étienne Gagneron. éleveur de bovins et vice-président de la FNSEA. Avec nous aussi Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue Dessinée, Sébastien Arsac, est fondateur de l'association L214, et Frédéric Danhay, journaliste, l'auteur de La cause végane, un nouvel intégrisme. Je vous repasse le relais.
Comment vous expliquez, Frédéric Danhay, une telle violence de la part de... On imagine que le fait de ne plus manger de viande calme les esprits et qu'on acquiert, enfin c'est ce que disent souvent les véganes, une forme de sérénité. Comment expliquer que des gens qui sont donc prônent cette sérénité attaquent une boucherie bio à Paris en aspergeant le boucher de liquide rouge en le frappant, attaquent des abattoirs, attaquent des fermes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là une étrange contradiction?
Oui, mais c'est des gens, j'en ai pas rencontré beaucoup, qui sont, enfin ceux que j'ai rencontrés sont purement dans l'émotionnel, et c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas l'idée qu'un animal meurt et que toute personne qui de près ou de loin est associée à ce meurtre, entre guillemets, est considéré comme un meurtrier ou un assassin, et donc il faut l'éliminer.
C'est ce qu'on sent dans le livre dans votre livre, Sébastien Arsac, quand la fin ne justifie plus les moyens. Vous décrivez le sort des animaux comme vous parleriez des déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais 214 soutient pas ces gens-là. Hein,
non, mais là, c'est dans votre livre, là.
Non, on ne fait pas cette comparaison-là. On décrit une situation qui est, effectivement dure à entendre, dure à lire, mais c'est une situation qui est basée sur des faits, sur des chiffres. Alors c'est clair qu'il y a des gens qui sont aveuglés par la colère et qui utilisent leurs émotions pour faire un peu n'importe quoi, mais c'est absolument loin des activités des véganes ou des militants pour les animaux qui font des tables de presse, qui vont montrer comment sont élevés les animaux dans les élevages. La violence, enfin, tout à l'heure on parlait de la question de l'environnement, la question des nouvelles façons de produire de la viande, mais aujourd'hui la réalité, en disant quelles vont être les conséquences qu'on imagine, enfin les travers que peuvent avoir cette végétalisation de l'alimentation. Aujourd'hui, en fait, c'est l'alimentation est responsable de 63% de la déforestation, par exemple. Enfin, la question
c'est des
études France, scientifiques.
Mais pas en France.
Non, mais la France est le troisième importateur mondial du soja du Brésil.
La France gagne 2% de surface forestière tous les ans depuis 20 ans.
La France est le troisième importateur mondial du soja du Brésil OGM. Donc la responsabilité, oui, de la France dans la déforestation, elle est là. Et la violence, c'est que j'ai regardé les chiffres. En 1945, il y avait un actif sur trois qui était dans le secteur agricole. En 2000, 1 sur 22, des personnes travailleurs actifs. Et aujourd'hui, on est à peu près 1 sur 33. Mmh. Donc c'est la violence qu'il y a eu. On est dans un secteur économique qui a connu une régression d'emploi. Il n'y a pas un seul autre secteur économique qui a connu une régression d'emploi aussi forte que l'agriculture. Et c'est le modèle que défend la FNSEA depuis des dizaines d'années, le modèle productiviste aujourd'hui qui va droit dans le mur. Elle est là, la réalité. Donc il ne faut pas retourner en fait cette violence sur les éleveurs ni la question de l'environnement. Aujourd'hui, c'est la question de la production de produits animaux. Aujourd'hui, qui fait le plus de dégâts au niveau environnemental et social.
J'aimerais faire un aparté. Il n'y a pas que l'alimentation aussi qui pose problème aux véganes. Il y a aussi, par exemple, les médicaments qui sont testés sur des animaux. C'est interdit, je crois, par le véganisme. Or, tous les médicaments sont testés sur des animaux. Comment on s'en sort ?
Il y a des modèles cellulaires maintenant, mais à un moment ou un autre, pour certains médicaments, notamment pour les anticancéreux, on est parfois obligé encore de passer aux animaux. C'est difficile
Nouveau médicament, par exemple, sur la leucémie, c'est sur les animaux. Hein.
Oui, c'est difficile de réduire. Comme, par exemple, je vous donne un exemple. La vitamine B12, on peut l'avoir dans la viande, on peut l'avoir en pilule. Mais simplement, elle n'est pas la même, elle n'est pas ciblée de la même façon. De la même façon, faire un test sur des couches cellulaires ne donne pas les mêmes résultats qu'un test sur l'animal. Malheureusement, il faut accepter l'idée qu'il faille faire des tests, s'il y a des tests qui ont été proscrits.
Cette question, elle est très intéressante parce qu'en fait, sur la question de l'expérimentation animale, effectivement, la situation est complexe parce qu'il y a une concurrence entre les deux, entre faire des tests éventuellement sur les êtres humains ou sur les animaux. Il y a une vraie concurrence. Donc, évidemment, la question, elle est ultra compliquée et elle est éthiquement, elle est vertigineuse. On peut aussi faire plein de choses en expérimentation animale. Mais pour l'alimentation, pour la question de l'élevage, pour les animaux qu'on fait naître aujourd'hui par millions, parce que c'est plus de 3 millions d'animaux qu'on tue dans les abattoirs aujourd'hui à l'arme blanche. C'est un meurtre alimentaire. Ce sont plus de 80% des poulets qui sont dans des bâtiments fermés. Ils sont 23 sur un mètre carré. Les poules pondeuses dans les cages, l'élevage en cage, on leur coupe le bec pour éviter le cannibalisme à l'intérieur. Et pour les cochons, c'est plus de 93% qui sont dans des bâtiments sur caillotis sans aller à l'extérieur. Là, il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune concurrence. C'est-à-dire qu'on peut très bien se nourrir en végétalisant notre alimentation.
Alors, ou simplement se nourrir aussi avec l'animal, avec d'autres modes de production, Étienne Gagneron.
Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais juste revenir juste un petit peu sur les extrémistes, parce que moi, j'ai eu l'occasion de débattre, notamment avec Boucherie et Abolition. C'est vrai que il faut quand même s'accrocher à la table. Hein. Moi, j'ai été traité de capot, de nazi. Voilà, enfin, j'étais sur ces huit.
La coordination rurale, ils mangent des végans. J'étais très violent aussi. Hein. Non, on trouve des violents chez les éleveurs, on trouve des violents chez les végans.
Moi, j'étais comme ça en face d'elle. Honnêtement,
il y a des éleveurs qui sont très violents.
À ce niveau-là d'agressivité, hein, parce que moi, mon grand-père, il a été dans un camp. Ça m'a beaucoup touché. Et honnêtement, les éleveurs, c'est ça qui ressentent très très mal. Alors bon, on me dit que ce sont des extrémistes et que globalement, d'autres mouvements ne font pas ça et sont plus respectueux des biens et des personnes. Sauf que Boucherie Abolition va peut-être être condamné pour s'être introduit dans des élevages la nuit en imitant les actions du L214 pour faire des vidéos, en libérant soi-disant des animaux, c'est-à-dire on les fait sortir parce qu'il faut libérer les animaux. Et donc derrière, bah bien sûr, il y a eu des étouffements, les animaux sont morts et tout. Donc quel est l'objectif, si ce n'est une espèce de mise en perspective complètement folle de libération des animaux et d'arrêt de l'élevage? C'est ça qui nous gêne aujourd'hui. Et même chez L214, moi j'ai beau lire vos écrits, quelque part d'ailleurs, quand vous dites prendre soin des animaux, dans la mesure où votre objectif final c'est l'abolition de l'élevage, moi je comprends pas. Voilà, je comprends pas le message. Je pense qu'il y a une grosse tromperie auprès des consommateurs. Je pense que c'est pour récupérer des legs, pour récupérer du financement, mais derrière, vous avez aucun... Voilà, vous vous mettez en avant comme un expert, vous nous additionnez des chiffres de nombre d'animaux, de kilos, de viande morte, mais en fait, votre objectif, c'est l'abolition, donc ça n'a pas de sens.
Amélie Mouget.
Je pense que sur cette question de la violence, où, tout dépend de quel véganisme, enfin de quel groupe vegan on parle. Je pense qu'on peut pas assimiler ce que fait L214, qui est de visibiliser, en fait, d'ouvrir un peu ces boîtes noires que sont les abattoirs ou ces élevages industriels qu'on a essayé de, au fil des décennies, de soustraire à nos regards. Parce que si on voit bien, quand on l'a sous les yeux, on n'a plus du tout envie de manger de la viande. Donc
ou de manger de la viande d'une autre façon.
Ou en tout cas
avec un autre système de production.
De viande là. Donc c'est vrai qu'il y a ce mode d'action qui consiste à nous mettre en face le mode de production et ses dérives. Et puis après, il y a des actions qui sont peut-être plus radicales. Nous, on a échangé pour faire cette revue à quatre avec des gens de 269 Libération Animale qui nous disent, nous, on n'est pas là pour agrandir la taille des cages. En gros, c'est ce que vous dites, c'est l'abolition qui est leur objectif. Et ça se traduit par des actions directes dans les abattoirs, des blocages d'abattoirs ou des libérations d'animaux qui vont trouver leur place dans des refuges dont le lieu est laissé secret. Mais eux nous disent, on s'attaque à des systèmes et pas à des individus. Pas à des bouchers, pas à des éleveurs, parce qu'on considère que ce n'est pas l'éleveur en souffrance, souvent enserré et contraint par un système qui ne lui permet pas de vivre dignement, ni le boucher qui fait peut-être ça de père en fils depuis père en fille depuis des générations, qui est responsable de cette folie industrielle dans laquelle on est empêtré.
Il y a une dimension chez les véganes qui est intéressante, dont vous parlez dans votre livre, Frédéric Danhé, c'est que donc c'est vrai que l'association L214 n'a rien de violent et ne doit pas être comparée avec Boucherie, Libération, enfin tous ces groupes-là. Mais alors vous dites que c'est une association qui use de la stratégie du dentifrice. Alors qu'est-ce que c'est la stratégie du dentifrice?
Ça, c'est Sébastien qui me l'a expliqué quand je l'ai interviewé dans ce livre. Il expliquera sans doute mieux que moi, mais en gros, c'est appuyer en permanence, jusqu'à obtenir un résultat. Le résultat maximum, c'est être là tout le temps, sans blesser, sans accuser.
C'est en accusant en permanence.
Oui et non, en proposant des solutions, en étendant... C'est la stratégie employée par L214, c'est pas une stratégie violente.
C'est une stratégie de lobby.
Elle est extrêmement violente. Enfin, moi, je peux pas accepter cette complaisance vis-à-vis du L214. Elle est extrêmement violente au quotidien.
Non.
Quand en permanence vous ne mettez en avant que la souffrance, quand vous ne parlez que de souffrance, alors que ça représente, on le sait très bien, que 1 à 2% des conditions de vie des animaux, et que quand ça se passe bien, vous ne faites pas de vidéos, vous voyez des élevages et vous vous sauvez parce que ça vous intéresse pas, vous ne montrez que l'aspect négatif. C'est comme si vous avez une chaîne de l'info qui ne montrait que des images merdiques du matin jusqu'au soir. Vous rendez compte un peu de l'image que ça donne de l'élevage, et c'est ça qu'on vous reproche. C'est pas, s'il y avait une prise de conscience, si de temps en temps vous disiez ben voilà, tel type d'élevage c'est bien, ça progresse, si par exemple de temps en temps vous disiez sur les antibiotiques en France on a baissé de 40% les antibiotiques dans les animaux, alors que dans les animaux domestiques il y a une augmentation de 10% dans la même période, voilà, à un moment donné il faut dire des choses positives, ne dire que des choses négatives. c'est là où on pousse les éleveurs à des conditions extrêmes.
Frédéric Danhaye et ensuite Amélie Mouget.
Alors je me porte en faux tout en allant dans votre sens, vous allez voir.
Très macronien.
Je suis absolument pas complaisant envers L214. Moi, j'admire ce qu'a fait L214 et j'admire les gens qui se battent pour une cause, quelle qu'elle soit. Donc, avec Sébastien Arsac, on est opposé, je pense, fondamentalement sur la philosophie qu'il y a derrière. Il n'en reste pas moins que je loue ce qu'a fait L214 et ce que louent certains éleveurs. Et beaucoup de directeurs d'abattoirs qui m'ont dit heureusement qu'elle 214 était là parce qu'ils ont mis le doigt là où ça faisait mal, là on ne pouvait pas rentrer, on a pu virer des gens qui se comportaient mal. Après effectivement il y a des gros amalgames, L214 forcément c'est son rôle de lobby ne montre que ce qui ne va pas et effectivement c'est ce que je reproche à L214 aussi, c'est que pour L214, pour Sébastien, voilà, il y a que l'élevage industriel, point final, et que si on veut l'abolir, eh ben il faut abolir l'élevage. Donc il n'y a même pas la solution intermédiaire.
Exactement.
Ou les solutions intermédiaires.
D'autres modes de production. Ouais.
En fait, derrière L214, effectivement, c'est un mouvement non-violent. C'est un mouvement, moi j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour Sébastien.
Mais qui est pour l'éradication totale de l'élevage.
Qui est pour l'éradication totale de l'élevage. Et ça, pour moi, c'est juste
impossible. Ce qui est un peu, qui n'est pas tellement compatible avec l'écologisme, en réalité.
Bah non, mais pas du tout. En plus, non, c'est un discours anti-écologiste. Enfin, on va lui donner la parole, il va nous expliquer ça. Amélie Mouget.
Deux choses sur le 1%, 2% ou que quelques individus qui se comporteraient mal ou quelques élevages qui seraient défaillants ou qui... moi, j'ai des gros doutes là-dessus, des doutes qui sont nourris notamment par l'expérience d'un journaliste qui s'est fait embaucher dans un abattoir où on a eu beaucoup ces discours-là. En gros, on ne travaille pas en abattoir par hasard et donc du coup, ce seraient des gens cruels, violents. Et du coup, quand il y a eu des images qui sont sorties, on a rejeté la faute sur les individus. Mmh. Nous, ce qu'on a vu à travers cette immersion en abattoir, c'était que les individus, en fait, sont soumis à des cadences telles qu'ils travaillent dans des conditions qui les détruisent physiquement, mentalement, qui doivent donner du sens à une activité qui n'en a pas, qui est très rude, et se mettent en place des mécanismes de défense psychologique qui font qu'ils sont dans une bataille avec l'animal parce qu'il n'y a pas d'autres, parce qu'ils risquent d'être blessés, et en fait c'est pas un individu qui dérape, c'est pas un élevage qui dérape, c'est la manière dont tout ça est organisé qui pousse les individus à des comportements qui ne sont pas forcément éthiques ou bien perçus de l'extérieur.
Frédéric Danhaye, juste un mot sur le caractère peut-être anti-écologique justement des véganes.
Mais c'est les véganes et les antispécistes. Moi, je réunis tout le monde sous voilà.
Antispécistes la même... qui considèrent que l'animal est en quelque et sorte là. Une créature qui doit être traitée au même niveau que l'humain.
Mais en fait, c'est assez logique de ne pas être écolo quand on est antispéciste. Dans la mesure où on considère qu'il n'y a pas de différence entre les espèces, il n'y a pas donc de prééminence de l'homme. Donc, comme l'homme, il est le seul à avoir décrit la nature, il ne peut pas y avoir de nature, il ne peut pas y avoir d'écologie. En fait, ça mène à une stricte séparation entre, bêtement, entre nature et culture, entre l'homme et les autres espèces. Donc, ça va aussi dans le sens d'un monde très urbain, alimenté par des flux de données, par des flux de molécules. Juste, sur les abattoirs, un mot très court. C'est vieux comme le monde. L'oppressé devient oppresseur. Il y a une solution qui est en train d'être testée en ce moment en France, c'est l'abattage à la ferme. Je voudrais bien avoir le point de vue de Sébastien là-dessus. L'abattage à la ferme, c'est revendiqué, c'est voulu, c'est demandé, pardon, par de plus en plus d'éleveurs. On attend les résultats.
Eh bien, on lui demandera dans quelques instants. Commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't
won't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
My God is gonna own me.
There's nothing left to say.
C'était Billie Eilish, la coqueluche des ados américaines. Pourquoi ce soir? Eh bien parce qu'elle n'a jamais caché son soutien à la cause vegan et que c'est le sujet du énervé.
France Inter.
On sait au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose de moralement inacceptable. Parce qu'en réalité, très peu de gens accepteraient, si on leur disait que c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'ils aient leur steak, de tuer eux-mêmes cet animal, de le découper.
Les végans, c'est simple, ils disent on tue mal les animaux, s'il faut jouer au con, bah moi je trouve qu'il y en a qui cueillent mal les pommes.
Vous n'avez aucune raison de manger de la viande.
On est des omnivores.
Encore, il faudra le prouver, parce que vous n'avez pas la dentition d'un omnivore.
Dire que vegan est bon pour la planète, c'est dire que mettre une paire de chaussures, c'est stupide.
Laurent Goumard.
Vous avez la dentition d'un frugivore.
Ça, c'est du jeune masse dans le texte.
Vous saviez pas, Laurent, si, vous avez la dentition d'un frugivore.
De toute façon, je perds toutes mes dents, donc en ce moment, d'un soupivore, moi, ça serait Sébastien Arsac, peut-être une réponse à la question que posait Frédéric Danhaye. On refait un truc, la question c'était Frédéric Danhaye.
La question c'était, qu'est-ce que vous pensez Sébastien Arsac, L214, des expérimentations d'abattage à la ferme?
Je pense que c'est une utopie qui n'a aucune chance d'arriver parce qu'en fait, il y a plus de 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs français. On a déjà du mal à faire des contrôles, à faire respecter les réglementations.
Et bon, on mangerait moins de viande, du coup.
Comment voulez-vous que l'abattage à la ferme, on puisse faire quelque chose qui soit viable? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Hein, si ça marche, ça va faire grimper le prix de la viande et on en mangera moins, et tant mieux. Mais donc, moi, ouais, alors je vais dire, c'est très bien. L'abattage à la ferme, c'est très bien. Après, la question de l'animal, il y a la question de la souffrance. Et il y a la question de la mise à mort, qui sont deux questions éthiques qu'on peut dissocier. La question de la souffrance, c'est 95% des cochons qui sont dans un bâtiment fermé, détruits, qui sont en stalle et qui peuvent faire un pas en avant, un pas
oui,
en arrière.
C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, les becs que l'on enlève,
voilà,
aussi.
Ça, c'est la souffrance animale. La question de la mort, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à faire naître un animal et interrompre sa vie de façon... d'ailleurs, il meurt très très jeune. Prématuré, on décide de faire naître des animaux pour les tuer dans les abattoirs. Dans les abattoirs, généralement, c'est avec un couteau. Donc, on coupe les artères et les carotides.
Ça, c'est pour le saignement. C'est pas comme ça qu'on les tue.
On fait couler le sang. C'est comme ça qu'on les étourdit avant, soit avec un pistolet à tige perforante. Donc, c'est une tige qui va venir trépaner l'endroit du cerveau. Donc, l'animal peut un peu bouger au dernier moment et tout ça. Donc, on n'est pas trop sûr qu'il soit totalement inconscient. Ou alors, c'est un choc électrique pour, par exemple, les moutons, les cochons. Ou alors, c'est un bain d'eau électrifié pour les poulets. On suspend d'abord par les pattes.
De toute façon, la question pour vous, c'est la mort de l'animal. Donc, de toute façon,
il y a deux choses. Il y a la question de la mort des animaux.
Contre la tauromachie, par exemple. Non, c'est un autre débat.
La question, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de faire couler le sang d'un animal alors que c'est une habitude alimentaire et que vous pourrez vous nourrir autrement. C'est une question que chacun doit se poser.
Et son moral,
parce
selon
que
vous.
C'est une question. En fait, c'est quand on a des habitudes, on a une façon de remettre en cause l'habitude, de se poser des questions. Et est-ce que oui, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que mon plaisir à manger un bout de viande, est-ce que ma culture, une chose comme ça, fait que je ne dois pas remettre en cause le fait de tuer des animaux pour ma propre nourriture? Et après, il y a la question de l'élevage intensif qui est la
une autre question. Étienne Gagneron.
Non, mais éleveur. Évidemment, la mort fait partie de la vie. C'est pas le moment le plus facile pour tout le monde, même pour les éleveurs. Alors moi, je suis pas représentant des responsables d'abattoirs ni des salariés d'abattoirs. Ce sont des métiers très difficiles. Il y a là nécessairement des choses à améliorer dans les conditions, dans les cadences. On peut pas continuer sur ce système-là. On est bien d'accord. Hein. Tout ça est à améliorer.
Mais pourquoi vous êtes mal à l'aise avec fondamentalement, la mort des animaux?
J'ai pas dit que j'étais mal à l'aise. J'ai dit que c'était un sujet sur lequel, effectivement, par rapport au grand public, c'est assez compliqué. Mais moi, je suis éleveur. éleveur et j'assume la mort de mes animaux. D'ailleurs, j'ai un bœuf qui part ce soir pour être abattu demain matin à 5h, puisque un bœuf bio, de 4 ans qui a un nom que je garderai pour moi et qui sera abattu, et je l'assume complètement. Et là, comme je suis là avec vous ce soir,
vous,
je
vous
peux pas y aller.
Mais enfin, pour lui, c'est la fin de sa vie, quoi. Moi, demain, il sera plus dans le pré.
Oui, c'est la fin de sa vie, parce que si je le gardais, j'aurais des animaux partout, j'aurais pas la capacité
de
les nourrir.
C'est bien le problème de l'élevage, effectivement. Et ben non, on est bien d'accord.
Pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle l'élevage, tout simplement. C'est-à-dire que si on n'enlevait pas les animaux pour les vendre, c'est-à-dire qu'on laisserait ensemble les frères et les sœurs copuler largement en termes de consanguinité et tout, enfin, ça ne marche pas. L'élevage, il faut à un moment donné enlever les jeunes pour laisser les nouveaux jeunes de l'année d'après arriver, prendre leur place,
les finir. Et ça participe aussi de la biodiversité aujourd'hui.
Et ça participe à l'entretien des prairies, ça participe à fournir une alimentation d'une excellente qualité, d'une pureté absolue. Moi, je vous rappelle quand même qu'un morceau de viande pas transformé, même un steak haché fait directement à la machine à steak, c'est un produit d'une pureté absolue. Il n'y a rien, aucun ingrédient. On met rien, on le mange, c'est parfait, ça se mange très très bien, c'est très très bon. Et d'ailleurs, les enfants adorent ça. Et juste pour Sébastien Arsac, lui dire que McDonald's a quand même fait le meilleur chiffre d'affaires de sa vie en France en 2018.
Oui, je pense que quand
Amélie Mouget.
Quand on parle de... faut voir de quel élevage on parle, en fait. Parce que quand on parle de biodiversité ou quand on parle de relation à l'animal entre l'éleveur et l'animal, là, j'ai l'impression qu'on parle d'élevage bovin extensif avec des prairies et du coup, une préservation, une influence sur le paysage, un impact positif sur le climat. Mais en fait, par exemple, la biodiversité dans l'élevage intensif, les variétés génétiques ont été complètement réduites à quelques variétés qui sont... vraiment calé sur les besoins des consommateurs pour que ça aille de plus en plus vite, pour que ce soit de plus en plus rentable. Donc la défense de la biodiversité, ou tout à l'heure on parlait de est-ce que l'écologie et le véganisme c'est contradictoire, l'élevage et la consommation de viande telle qu'elle existe aujourd'hui, clairement pour le climat c'est désastreux, pour 40% des céréales sont produites pour les animaux, on parlait du soja brésilien, ça pose problème, la consommation d'eau aussi, donc si on parle d'élevage, je pense qu'il faut à chaque fois qu'on dissocie élevage intensif et élevage extensif de fait dans des conditions respectueuses des hommes de l'environnement.
Mais ça ne satisfera pas de toute façon.
Dans les deux cas, si, ça va me satisfaire parce qu'on aura résolu 80%. On a écrit un livre. Quand la fin ne justifie plus les moyens, on a lancé un appel stop élevage intensif. Ouais. L'idée, c'est de dire on ne sera pas forcément d'accord sur la question de tuer les animaux ou pas. C'est une question cruciale, importante. Mais il ne faut pas qu'elle fasse obstacle à la question de s'allier, nous ensemble autour de cette table, qui sommes contre l'élevage intensif, et de s'allier pour limiter. Si on s'allie ensemble et qu'on obtient des avancées politiques, on aura résolu 80% de la souffrance animale. Moi, ça me va très très bien. On n'a pas d'agenda caché, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de remettre en cause la question même d'utiliser les animaux pour notre consommation. Mais aujourd'hui, l'urgence capitale, elle est ça. 80% de la souffrance animale serait éliminée si on enlevait l'élevage intensif. Donc moi, je suis pas, c'est pas tout ou rien. À un moment donné, il faut qu'on puisse avancer ensemble, parce que sinon, on fait une espèce d'ornière, un débat avec les pour ou contre la viande.
C'est une sorte de radicalité qui n'a aucune solution.
Oui, mais quelque part, ça arrange l'agroalimentaire, parce que pendant qu'on fait un débat pour ou contre la viande, on a déplacé le débat sur cette question-là, et alors que le débat aujourd'hui, c'est comment on produit aujourd'hui les produits animaux, et comment on peut s'en débarrasser. Comment on peut arrêter, par exemple, de construire des élevages de poulets dans lesquels on va entasser 30 à 40 000 poulets à 22 par mètre carré. La question, elle est là aujourd'hui. Et si tous ensemble, autour de cette table, on s'alliait pour qu'il n'y ait plus d'installation de nouvel élevage, nous, c'est ce qu'on demande à la fin de cet appel. Donc j'aimerais bien, autour de cette table, qu'on puisse, en toute intelligence, en finir avec l'élevage intensif aujourd'hui. Et ça veut dire diminuer notre consommation de produits animaux, forcément.
Étienne Gagneron et ensuite Frédéric Danhaie.
Non, mais déjà, le concept d'élevage intensif, il n'est pas défini, ça ne veut absolument rien dire.
Alors oui, on l'a défini dans le livre en disant c'est les animaux qui ne vont pas à l'extérieur. Voilà, c'est la définition. On a été clair.
Et moi, je peux vous dire qu'il y a aussi des animaux qui vont à l'extérieur, qui sont dans des très très grandes conditions de souffrance. Je pense à la prédation.
Mais laissez-moi parler.
Je pense aux éleveurs d'ovins qui ont des loups qui courent derrière.
Il y a des animaux qui souffrent en étant à l'intérieur, ils souffrent de façon certaine.
Quand on est à l'intérieur et qu'il y a des bâtiments de très très bonne qualité, parce qu'en fait, le constat, il est fait depuis de nombreuses années, qu'il y a des dispositifs de production standard qui sont pas bonnes, donc en termes d'éclairage artificiel. Et donc, enfin, je veux dire, ces filières-là, c'est pas des fous furieux. Ils continuent à adapter les bâtiments, il y a des ventilations et tout. Je peux vous dire que cet été, au mois d'août, quand il faisait 42 degrés chez moi, eh bien, les éleveurs qui avaient des poulets enfermés dans des bâtiments, ils étaient mieux que mes vaches qui étaient dehors à 42 degrés. Donc, il faut pas, c'est pas aussi simple que ça.
Oui, et après, même à l'intérieur, à défendre l'élevage même intensif. À l'intérieur, en fait, c'est un discours qui défend l'élevage
des
intensif.
80% qui sont cités là. Il y a évidemment des gradients parce que les éleveurs, ils fonctionnent pas tous de la même manière. Il y en a qui font plus attention. Il y en a qui engraissent leurs animaux un peu plus longtemps. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de diversité dans les modalités d'élevage.
Frédéric Danhay.
Oui, l'élevage intensif, je vois à peu près la définition de Sébastien, mais en France, l'essentiel des vaches sont élevées pour l'essentiel à l'herbe et au foin. La part de tourteaux est minime et la part de tourteaux
de soja... Il y a beaucoup de zéro-pâturage de plus en plus. Dès que vous passez à un troupeau de 100 vaches, c'est difficile de les faire sortir sans défoncer les champs, etc.
Et les porcs et les poulets.
Ouais. Non, mais là, je parle des vaches, uniquement des vaches.
Non, on a plus de 800 millions de poulets.
Concentrons-nous sur les vaches. Moi, j'aime bien les vaches. Voilà, je m'intéresse aux vaches.
J'aime bien les vaches.
Sur le rapport à la mort, mais non, mais je sais même pas pourquoi il y a des bancs en fait.
Une question que j'aimerais vous poser, c'est une question qui fâche un peu, que j'ai trouvée dans votre livre, ouais. Frédéric Danhay. En fait, si on devient végane, on est souvent forcé d'avaler des produits de substitution. Et dès lors, est-ce que c'est pas l'industrie pharmaceutique qui est gagnante?
Depuis le début, on inverse tout. Quand vous mangez des produits animaux, vous mangez des animaux qui sortent d'un labo, quelque part, qui ont été mis au point au niveau de la génétique.
Non, pas du tout.
Je peux m'expliquer?
Non, c'est faux. Je peux m'expliquer parce que ça tient pas la route.
Si, mais j'aime bien les chiffres, la science et tout ça. Quand vous avez les poulets aujourd'hui qu'on retrouve dans les supermarchés, ce sont des poulets qui sont, mais les vaches aussi. Une vache, par exemple, une vache laitière aujourd'hui, Holstein, peut produire jusqu'à presque 60 litres de litres par jour de lait. Un veau, à peu près, ses besoins, c'est 7 litres. Voilà, en moyenne, on est sur 30 litres. Donc, on a poussé ces vaches à produire énormément de lait, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont des problèmes de mamie, de boiterie, etc. À tout ce qu'on veut. Au bout de 5 ou 6 ans, elles sont complètement épuisées alors que leur espérance de vie c'était 20 ans. Voilà, aujourd'hui, quand on mange la viande aujourd'hui, c'est issu d'une sélection génétique, c'est issu des travaux de l'INRA pour qu'on grossisse, que ces animaux fassent de la viande rapidement, et même les poulets sont même pas viables à l'âge adulte, quoi.
Frédéric Danhay, juste, ce sera le mot de la fin sur la question que posait Christophe Bourseiller.
Bon, Sébastien pousse le bouchon un peu
sur
loin.
Sur quel sujet?
Non. Concentrez-vous sur votre question.
Sur l'origine industrielle, génétique, laborantine de la viande, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Que tous les animaux sortent d'une sélection génétique aujourd'hui.
Entre la sélection génétique qui est à l'origine et puis des produits ultra transformés que mange la population, et en particulier les véganes, quand on voit des steaks de soja, des steaks de substitut de viande, il suffit de regarder la composition pour voir que ça n'enrichit qu'un seul domaine industriel alimentaire.
Le soja dont tu parles aujourd'hui, il est d'abord et essentiellement mangé par les animaux d'élevage. Donc il faut quand même arrêter le délire. Les OGM arrivent par les animaux d'élevage.
Sur 5% de leur alimentation. Pas pour les vaches.
Je reviens sur l'industrie pharmaceutique, serait-elle gagnante ou pas? En tout cas, à l'heure actuelle, avec la consommation d'antibiotiques dans l'élevage, elle est gagnante. Les chiffres qu'on a trouvés, c'est si on arrête la consommation de viande, ça soulève plein de questions par ailleurs. Mais sur la question des antibiotiques, on réduirait par deux les quantités d'antibiotiques. Enfin, on diviserait par deux. Et ça signifie que le problème d'antibiorésistance, quel est le problème? C'est-à-dire, les antibiotiques, il y en a tellement que ils sont plus efficaces. Quel problème majeur soulevé par l'OMS serait quand même en grande partie réglé. Donc,
pas que ça. Hein.
Il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, sur ce point-là en particulier, l'industrie pharmaceutique a tout intérêt au statut quo, j'ai l'impression.
Mais ça, c'est pas vrai. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un plan Equibio antibiorésistance qui a été mis en place. Il y a une réduction de 40% dans les animaux d'élevage en France.
C'est énorme. C'est la fin du débat. On va s'arrêter. On va faire juste une pause musicale. Tout de suite, on va partir en live avec Marion Guilbeault. All right, let's
have a little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Et c'est le retour de Vincent Delerme, toujours hanté par le cinéma, Marion Guilbeault.
Oui, la semaine dernière, on avait évoqué son premier film, Je ne sais pas si c'est Tout le monde, ça sort le 16 octobre sur les écrans. Mais Panorama, son nouvel album, sollicite également notre regard, parce que c'est en confiant chaque titre à un réalisateur, réalisatrice différent, que ses chansons s'identifient encore un peu plus à des courts-métrages qu'à l'accoutumée. Alors, on retrouve les complices de longue date, comme Clément Ducol, Peter Van Paul, les amis, Kerenan, Yael Naïm, et puis il y a des nouveaux venus dans ce paysage musical de Vincent Delerme. Il y a Voyou, il y a Dan Lévy, il y a French 79 qui signe un titre qu'on adore et qui stimule à merveille les climats mélancoliques et tendres de Vincent Delerme. Alors dans son nouvel inventaire, on trouve aussi un duo avec Rufus Wainwright, les fantômes d'Agnès Varda, de Nick Drake, de Raymond Carver, et puis les voix toujours inspirantes d'Alain Souchon, de François Truffaut. Et vous avez choisi ce soir, Vincent Delerme, d'interpréter La Chamade. C'est un titre qui est réalisé par Herman Dune, et je me demandais, entre le folk de cet artiste émigré aujourd'hui en Californie et votre chanson, comment il est arrivé dans votre univers ?
C'est vraiment parti du fait que moi j'adore Herman Dune depuis longtemps, et là j'ai envoyé un message privé Instagram pour dire bonjour, je fais un disque, et lui expliquer le principe, qui était aussi que je voulais envoyer juste une mélodie, récupérer un arrangement et écrire après les paroles un peu en fonction de la couleur de l'arrangement qui était proposé. Ça n'a pas toujours marché comme ça, pour être franc sur le disque, mais là, avec David d'Herman Dune, ça a marché comme ça, et les images de la chanson sont venues un peu du fait de l'orchestration.
Clip qu'il a réalisé ?
Le clip, c'est les Cowboys, qui sont un duo de clippers que j'adore, avec qui je travaille depuis deux albums. Et voilà, qui en général savent à peu près bien ce que j'aime aussi, et photographier les choses un peu comme dans cet esprit.
Comme vous le feriez vous, moi j'ai l'impression quand j'ai vu ce clip. La Chamade, Vincent Delerme, toujours en piano-voix, dans le nouveau rendez-vous.
Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi. La voiture brûlante, le capot. Sur le garçon, une fille s'appuie. À leur vouloir être à leur place, à leur sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota, et sur les fleurs du couvre-lit. Dans trois minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade. Le drive-in dans l'Idaho, elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud, alors s'embrasser à l'arrière. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade. Adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat.
La Chamade, cet extrait de Panorama, le nouvel album de Vincent Delerme qui sortira le 18 octobre. C'est un disque France Inter. Et Vincent Delerme sera en concert à la Cigale à Paris du 22 au 26 octobre, du 5 au 9 novembre, du 3 au 7 décembre et tourné dans toute la France à partir du 11 février. Le film de Vincent Delerme sortira également le 16 octobre. Prise de son, Julien Dumont, Fabrice Desmaz. Merci infiniment.
Merci Marion et merci bien sûr à tous nos invités. Étienne Gagneron, merci Frédéric Danhé. La cause végane, un nouvel intégrisme, c'est paru aux éditions Buchet-Chastel. Sébastien Arsac, quand la fin ne justifie plus les moyens, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Amélie Mouget, A4, viande, sa dernière heure a-t-elle sonné? C'est
la revue dessinée, la revue 21, Topo et 6 mois.
Ça, c'était pour le NRV d'aujourd'hui. Première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV et la suite pour plus de France Inter.
Ah oui.
Mais demain, au programme du NRV, quoi qu'est-ce ?
L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France.
Et est-ce que c'est notre futur loi audiovisuelle? On en parle demain, on attend vos messages, questions, analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. Demain, le live, ce sera Baltic. Batlick. Ouais, Batlick, c'est mieux, je crois. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, préparation, programmation, Virginie Rosic et Clémence Diligent à la technique ce soir, Élise Christophe. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal, soirée mystère sur une œuvre supposée de Léonard de Vinci, le buste de Flora. Oui, c'est au programme du NRV la suite, France Inter Plus. Ah, une bouteille qui claque, c'est vous Christophe Bourseiller. Allez, à tout de suite.
Rendez-vous.